Histoire et gastronomie, la chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
La révolution et l'invention de la table moderne, grand 2, l'invention de la restauration moderne, sous le directoire. La révolution avait précipité sur le pavé les cuisiniers et les officiers de bouche des maisons nobles. Certains avaient essayé de créer des restaurants comme Beauvilliers, ex-officier de bouche du prince de Condé en 1790, ou Méo, ancien de la maison du duc d'Orléans en 1791. Ces restaurants eurent un grand succès au début de la Révolution, mais leur fréquentation se réduisit sous la Terreur, bien que les révolutionnaires y mangèrent assidûment. Ainsi, les membres du tribunal révolutionnaire fêtèrent chez Méo l'exécution de la reine Marie-Antoinette. La chute de Robespierre et de Saint-Just, le 9 Thermidor, selon le calendrier révolutionnaire créé par Fabre d'Églantine, qui fut cependant guillotiné, libéra les esprits et un furieux appétit de vivre anima les survivants de la Terreur. Grimaud de la Reynière, inventeur de la critique gastronomique sous le directoire, nous a décrit dans son manuel des amphitryons. Dès que l'abondance eut commencé à renaître, les grands artistes en cuisine osèrent se remontrer. La plupart avaient été réduits à la diète la plus austère par la fuite de leur maître. De valets bien payés et bien nourris, ils étaient devenus citoyens, pensionnaires et rentiers, ce qui ne les empêchait pas de mourir de faim. Ceux qui avaient sauvé quelques débris du naufrage avaient formé quelques établissements qui sont devenus depuis les temples les plus renommés de la bonne chère. Car telle est l'origine de la plupart de nos grands restaurants. Les restaurants devinrent un lieu de rencontre et de fête qu'ils ont conservé jusqu'à nos jours. Ces premiers restaurants parisiens siégeaient presque tous autour du Palais Royal, dont ils occupaient les arcades. Des baraques au milieu des jardins, abritant les fastes de Vénus. Ainsi étaient réunis en un même lieu les fastes de Comus et de Bacchus, mais aussi ceux de Vénus. La politique n'avait pas disparu pour autant, puisque les républicains et les royalistes, muscadins armés de gourdins ferrés, avaient chacun leur café et leur restaurant. Les restaurants les plus fameux furent sans conteste le Café de Chartres, dont le décor a été conservé dans l'actuel Grand Véfour, Méo, les Frères Provençaux, Beauvilliers et sa taverne anglaise. Ces restaurants associaient une gastronomie raffinée, des décors somptuaires et un service parfois exubérant. Ainsi, Beauvilliers se pavonnait dans son établissement, l'épée au côté et un exubérant jabot sur la poitrine. La décoration était aussi somptuaire. Chez Beauvilliers, la salle était décorée de papier peint dans le goût chinois et les meubles étaient en agajou. Et chez Méo, le style était dorique, les plafonds décorés de peintures mythologiques et les murs ornés de grandes glaces, ce qui était une nouveauté. Méo inventa les salons particuliers, ce qui lui valit le surnom de temple de Bacchus et de Vénus. René Héron de Villefosse nous dit même qu'il y avait dans un petit salon une baignoire que l'on pouvait faire remplir de champagne afin d'y être massé par des femmes habiles, ce qui était une cime du dilettantisme et vous revigorait à merveille. Mais comme le dit Sébastien Mercier dans son tableau de Paris, comme l'on mange à Paris, la meilleure chair ailleurs ne vaut pas un dîner chez Méo, chaud, prompt et bien fait. Le restaurant des Frères Provençaux introduisit à Paris les plats méridionaux comme la bouillabaisse, la brandade de morue et surtout la tomate. Le menu imprimé sur lequel on choisissait parmi plus de 100 plats fut inventé chez Méo. On ne craignait pas de mélanger les plaisirs, on mangeait, on courtisait, mais on jouait également. Une ambiance musicale était habituelle, assourdissant parfois les convives. Des nuisances s'ensuivirent. Les cuisines des restaurants sont dans les caves au-dessous des salles, ce qui devient bien désagréable, insupportable même, aux personnes qui passent le long des soupiraux qui donnent sur la rue. On est suffoqué par les vapeurs de charbon et l'odeur mélangée des ragoûts que vomissent ces soupiraux. Tous les modes de gastronomie seront essayés à cette époque du directoire. La grotte flamande, où l'on mangeait dans les caves, comme un Saint-Germain-des-Prés dans les années 1950. Le couvert espagnol, qui avait inventé une table d'hôte où l'on mangeait pour 4 francs café compris, puis la gastronomie qui n'avait pas encore quitté le Palais Royal se répandit dans tout Paris. Vénua dans l'actuelle rue de Rivoli, Le Doyen sur les Champs-Élysées, fréquenté par Barras, Véry aux Tuileries dont la carte comprenait plus de 100 items, 9 potages, 9 pâtés, 25 hors d'œuvre froids, 28 plats de mouton et de veau et autant de plats de poisson, 15 espèces de rôtis et 44 entremets. Comme le disait Kotzebue, un voyageur allemand en 1804, « Je défie le mangeur le plus intrépide de conserver de l'appétit en sortant de dîner chez ce restaurateur. Mais s'il restait encore une petite place dans son estomac, elle serait bientôt remplie par le choix qu'il pourrait faire dans les 31 plats de dessert. » Cette époque met là aussi sur la table des restaurants de luxe ou autres tous les convives possibles. Les politiques comme le directeur Barras ou le général Bonaparte dont le siège est encore marqué au Grand Véfour. Les artistes comme l'illustre comédien Tas Telma. Les écrivains comme Sébastien Mercier ou Restif de la Bretonne. Sans oublier les gastronomes impénitents comme Grimaud de la Reynière, auteur du manuel des amphitryons. Berchoux qui popularisera le mot de gastronomie. Ou Bria Savarin qui publiera peu avant sa mort en 1823 « La physiologie du goût », livre fondateur de la gastronomie. Cet état de fait se poursuivra au siècle suivant, avec notamment Balzac, Morny ou Léon Daudet, et dure toujours de nos jours. La cuisine et la gastronomie sont devenus des principes fondamentaux de la culture française. Les racines de l'inscription de la gastronomie française au patrimoine mondial de l'humanité, immémorial, remonte donc au Directoire, qui fut une période de joie de vivre à l'issue de la Terreur et d'expérimentation de nouveaux modes de restauration.